Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Bleu Gascogne, à votre service.
À votre service, et cette question maintenant, comment isoler au mieux son logement? On en parle avec l'espace France Rénov des Landes, isolation pour l'hiver mais aussi pour l'été, comment bien choisir les matériaux? Écoutez Aurélien Mandiag, il est conseiller et thermicien à l'espace France Rénov des Landes.
Au niveau des solutions pour isoler son logement, il y a vraiment deux points importants à retenir. C'est quand on fait une isolation, il y a deux intérêts. Le premier, c'est pour réduire sa consommation énergétique, avec tous les intérêts qu'on connaît, pour baisser les factures, améliorer son confort, et également des questionnements pour tout ce qui est le confort d'été, c'est-à-dire que quand on va isoler son logement, maintenant il faut aussi commencer à raisonner sur le confort estival, et c'est plutôt le choix des matériaux qui va permettre d'améliorer ou non ce confort. Donc il faut penser sur l'isolation pour l'hiver, mais également sur l'été.
Mais est-ce que c'est exactement le même type de matériaux entre l'été et l'hiver ?
Alors, il y a plusieurs types de matériaux qui existent. Certains vont être adaptés vraiment pour l'été avec ce qu'on appelle un déphasage thermique important. C'est-à-dire que cela va faire les mêmes effets que les anciennes bâtisses en pierre. Les logements ont beaucoup d'inertie, c'est-à-dire qu'ils peuvent stocker la chaleur et ça permet de garder la fraîcheur dans le logement.
D'accord.
Donc il y a des matériaux qui sont plus orientés pour avoir ce type d'effet-là, d'autres qui le sont un petit peu moins. Mais de façon générale, tous les matériaux qu'on dit isolants vont par contre jouer leur rôle en hiver pour isoler. Donc vraiment
On parle de quoi précisément quand on évoque ce terme isolation? On parle du toit ou on parle des murs?
Alors on parle de toutes les parois opaques de façon générale, le plancher, le plafond, les murs. Et on peut même éventuellement parler de tout ce qui est le remplacement des menuiseries, même si c'est du vitrage en l'occurrence.
Oui, parce qu'on ne va pas forcément isoler le toit de la même manière que les murs extérieurs.
Ce ne sera pas les mêmes isolants, les mêmes produits. Au niveau des épaisseurs exigées, ce ne sont pas les mêmes épaisseurs qui sont demandées.
Alors par exemple, quelle est la grosse différence concernant les épaisseurs pour le toit et les épaisseurs pour les murs extérieurs?
Alors de façon générale, ça dépend des isolants, mais pour donner l'ordre de grandeur, au niveau des murs, on va mettre entre 12 et 14 cm d'épaisseur, alors que dans la toiture, plutôt une vingtaine, 25 cm d'épaisseur. Et si jamais on a des combles perdus sur lesquels on peut réaliser du soufflage par exemple, on sera à plus de 30 cm d'épaisseur.
Et là, précisément concernant les matériaux, qu'est-ce qui est tendance en ce moment pour isoler?
Alors, au niveau de ce qui va être le plus efficace à la fois pour l'hiver et pour l'été, on va choisir des matériaux à forte densité, c'est-à-dire des matériaux assez lourds au mètre cube. Et essentiellement, les matériaux qui ont ses plus grandes propriétés, c'est les matériaux biosourcés. On va retrouver la laine de bois, la fibre de bois essentiellement, qui pèse autour peut-être des 40, 50, 60 kilos au mètre cube. Et donc, ils vont apporter cette fameuse inertie, ce fameux confort d'été pour le logement.
D'accord. Donc là, c'est à mettre plutôt dans les combles, ça, non? Ou même sur le mur extérieur?
Aussi bien sur les murs que pour les combles ou la toiture.
En termes de coût, ça peut monter très vite, en fait
Il y a plusieurs gammes avec plusieurs densités. Effectivement, ce sera forcément un peu plus onéreux que les matériaux standards comme la laine de verre qui sont les plus répandus, mais on y gagne beaucoup sur le confort estival.
Ok, donc là on a droit à des aides.
On a le droit à des aides. Les aides, selon le dispositif, sont aussi des aides en pourcentage, ce qui veut dire que s'il y a un surcoût lié à un choix de matériaux peut-être plus efficace ou plus onéreux, l'aide va aussi, dans certains cas, s'adapter à la hausse de prix.
Ouais, on peut avoir donc des aides pour isoler sa maison, son logement. Plus d'infos auprès de l'espace France Rénov. Aurélien Mandiag, qui est conseiller et thermicien justement à l'espace France Rénov des Landes.
France Bleu Gascogne, à votre service.
Nous sommes à votre service tous les matins jusqu'à 10h. Et là, on va parler de la retraite. La retraite, ça nous concerne tous. Alors, l'une des questions que l'on se pose, c'est: quand pourrais-je partir à la retraite? C'est la question posée par Denise à Mont-de-Marsan à Vanessa Richard de la CARSAT Aquitaine.
Je voudrais savoir à quel âge je pourrais partir. Voilà, j'ai commencé à 18 ans et demi. je ne me suis jamais arrêtée, pas d'arrêt maladie, donc voilà.
Comme ça, un petit peu, vous répondre avec une carrière sans avoir votre carrière sous les yeux, c'est un peu compliqué. Oui. Maintenant, vous êtes ouvert votre compte, votre espace personnel sur l'assurance retraite.
J'y suis allée déjà, oui.
Alors, vous êtes née en quelle année?
En 65.
En 65. Et donc, la première estimation que le système vous a donnée, c'est une estimation à 63 ans et 3 mois ou avant?
Avant, 61 et quelques mois.
Voilà.
Donc, il y a 6 mois de ça. Donc, avec la nouvelle réforme, qu'est-ce que ça va faire?
Ah, ben là, il va falloir voir effectivement si ça a changé. Bon, alors déjà, par principe, si vous a donné une date avant 63 ans et 3 mois, c'est que vous êtes en carrière longue. D'accord?
Oui.
Parce que voilà, le simulateur, oui. Si vous n'avez pas droit à la carrière longue, il vous met directement la première simulation, c'est l'âge légal. Donc après, oui. Ben, effectivement, les gens nés en 65, vos 5 trimestres, vous ne les avez pas avant la fin de les 18 ans, mais vous allez les avoir avant la fin des 20 ans. Donc oui, effectivement, ça va vous faire un minimum à partir j'en ai en 65, j'ai pas les dates précises, mais c'est pas 60 ans, ça va être je pense 60 ans et 6 mois, mais il faut que je voie ça. Mais c'est surtout qu'il vous faudra valider 172 trimestres cotisés.
Disons, je vais les avoir. Est-ce que j'ai deux enfants, ça compte pas pour deux ans, donc 8 trimestres?
Non, alors les trimestres, la majoration des trimestres enfants, ils ne comptent que pour l'âge légal. Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, ce n'est que pour la carrière.
Ah ouais.
Par contre, effectivement, avec la nouvelle réforme, si vous avez eu dans votre période une année off qui a été validée par de l'assurance vieillesse de parents au foyer, c'est-à-dire que c'est la CAF qui cotisait pour vous, cette année-là, avec la nouvelle réforme, elle est prise en compte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir dans le détail. Mais déjà, le simulateur, depuis le 1er septembre, il est correct au niveau des départs et même des montants quand même. Il est quand même valable. Donc regardez sur le site. Mais après, toujours pareil, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous, bien évidemment, si vous le souhaitez.
Voilà, je pensais que, comme j'ai deux enfants, j'allais avoir les trimestres en plus, disons, ça allait me faire les trimestres cotisés. Non, ça ne compte pas.
Non, pas pour la carrière longue.
Bon, voilà, une pénalité encore. Alors,
ah, c'est absolu. Alors, par contre, je tiens juste à préciser,
oui,
ce n'est absolument pas une pénalité, puisqu'à la base, la majoration des trimestres des enfants, ce sont des trimestres qu'on donne aux carrières pour justement autrefois combler les trous que les mamans avaient dans leur carrière. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui partent avec énormément de trimestres, mais parce qu'en fait, ben, la vie a évolué et que les mamans ne restent plus trop au foyer et donc elles n'ont plus trop de trous dans leur carrière. Donc effectivement, la majoration enfant ne les aide plus à la fin pour prendre la retraite à l'âge légal. Mais ce n'est pas une perte, ce n'est pas négatif, c'est juste que la vie a évolué et que les mamans ne restent plus au foyer.
Voilà donc la mise au point de Vanessa Richard de la Carsat Aquitaine.
France Bleu Gascogne, à votre service.
Nous sommes à votre service avec là les conseils de notre vétérinaire Pierre Marot. Il s'occupe des chiens, des chats et d'autres animaux comme les tortues. Maria de Morsinx-la-Nouvelle a une tortue qui a un problème avec sa carapace.
J'ai une petite tortue, une femelle, qui a la carapace abîmée parce que justement le mâle n'arrête pas de la cogner. Et il y a deux endroits qui sont bien abîmés de sa carapace. Je voudrais savoir ce qu'on peut faire.
Alors la carapace, bah, c'est bien sûr c'est très important parce que c'est leur protection et notamment bah, ça peut être un point d'entrée vis-à-vis des poumons si jamais c'est fissuré, donc il faut s'en occuper. Alors le mieux c'est de faire de la faire consulter à votre vétérinaire et tout simplement il y a des petites colles chirurgicales qui permettent de réparer ces blessures en collant le point de fissure de la carapace. Hein, donc s'il y a une fissure importante, je pense qu'il vaut mieux la faire consulter, ouais.
Alors... En fait, c'est pas une fissure, ça fait vraiment, on voit bien que ça a frotté et qu'il manque une épaisseur de la carapace à
D'accord.
deux endroits.
Alors, s'il manque un petit bout, mais qu'il n'y a pas de pénétration ou de point d'entrée, bon, éventuellement, ça peut rester parce que ça va se régénérer, mais par contre, il faut faire attention par rapport au mâle, les séparer ou prendre des mesures pour qu'il arrête, bien sûr.
Ça peut se régénérer au bout de combien de temps, en fait, une carapace de tortue ?
C'est assez long, hein, mais voilà, l'essentiel, c'est qu'il n'aggrave pas.
Des années ?
Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est
d'accord.
Ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il aggrave et qu'il y ait un point d'entrée dans la carapace.
D'accord. Alors, je me permets juste une petite remarque et une question par rapport donc, à une fissure que peut avoir une tortue. Vous évoquez la colle chirurgicale.
Ouais.
Vous nous dites, bon, il faut absolument consulter dans ce cas-là, puisqu'il faut passer par un vétérinaire.
Ouais.
Mais si certains se disent, bon, j'ai peut-être pas forcément le temps, voilà. Si certains ont l'intention de le faire par eux-mêmes.
Oui, j'en ai déjà vu qui l'ont fait.
Ouais.
Après, ça peut être plus ou moins bien fait. Donc,
Mais là, en l'occurrence, j'imagine que trouver de la colle chirurgicale, ça se trouve pas au.
Non. Bon, après, moi, j'ai un client qui l'avait fait à la Super U, hein, à la Super Glue, pardon.
Ouais.
Il avait fait ça. Et puis, écoutez, il l'avait quand même fait correctement. Ça avait fonctionné. Maintenant, voilà. Parfois, il vaut mieux voir un professionnel.
D'accord. Bon.
Mais par contre, tous les vétos ne soignent pas les tortues parce que j'en ai pas.
Oui. Alors voilà, effectivement, bon. On a une formation effectivement de base. Maintenant, après, il y a des spécialités. Dans les cas graves, effectivement, il faut consulter un vétérinaire qui s'est spécialisé là-dessus. Ouais.
Ah, d'accord.
Ouais.
Okay.
Donc, Maria, il vous reste peut-être plus qu'à attendre.
Voilà, si, c'est pas trop, si vous ne voyez pas de point d'entrée vraiment, peut-être voilà, séparer le mâle et attendre que ça se régénère. Sinon, si vraiment ça commence à faire une fissure importante, il vaut mieux consulter.
Et comment vous avez la possibilité justement de séparer les deux, le mâle et la femelle ?
Donc, la femelle est dans le parc à tortues et puis le mâle, il se balade dans le jardin parce que... Il la cogne sinon régulièrement.
Et voilà, il vaut mieux, à ce moment-là, il vaut mieux faire ça, il vaut mieux les séparer. Ouais.
Notre vétérinaire conseil, Pierre Marot, sur France Bleu Gascogne.
France Bleu Gascogne, à votre service.